voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine. Aujourd'hui, troisième volet de notre entretien. Hier, nous évoquions les luttes anticoloniales en Algérie et au Vietnam, des mobilisations qui ont été le ferment de ceux dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Alain Krivine, vous avez été construit par votre cellule familiale au sein d'une fratrie très politisée. Vous avez appartenu à la famille communiste et vous étiez de ceux qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie et contre la guerre du Vietnam. Et c'est ce mot d'ordre qui vous a fait entrer dans la grande famille étudiante, multiple, conflictuelle, enthousiaste et désordonnée, de mai 68. Alors pour commencer, je voudrais évoquer la figure de l'étudiant. Vous avez milité à l'UEC, donc à la Sorbonne, puis vous avez créé un mouvement de jeunesse trotskiste, la JCR. Vous avez participé à ce mouvement de mai qui était un mouvement au départ étudiant. N'étiez-vous pas finalement loin de la base, loin des ouvriers ?
Loin des ouvriers, c'est évident. Hein. En tout cas sur le plan sociologique, si on veut. En 68, en fait... malgré ce que certains ou certaines peuvent penser, j'étais plus étudiant depuis environ 2 ans, mais j'avais encore plein de contacts en milieu étudiant parce que j'avais été pendant plusieurs années secrétaire des étudiants communistes de la Sorbonne, qui était donc un très gros secteur puisqu'il y avait 400 ou 500 étudiants là-dedans. Bon, en 68, j'ai été en fait secrétaire de rédaction dans une grande maison d'édition. Donc je travaille à mi-temps là-dedans quand les événements de 68 vont éclater. Donc le contact était essentiellement avec le milieu étudiant, c'est-à-dire je quitte immédiatement cette maison d'édition, je romps mon contrat en quelque sorte, et du jour au lendemain je me retrouve au Quartier Latin, dans un milieu que je connaissais très bien. Donc le milieu étudiant, je connaissais le milieu ouvrier en toute franchise, pas seulement moi personnellement, mais l'extrême gauche de l'époque, notamment à l'époque on avait créé entre-temps une organisation qui s'appelait les JCR, Jeunesse Communiste Révolutionnaire, après avoir été exclu des étudiants communistes, et c'est une organisation qui était à 4/5 étudiante. On avait quelques contacts ouvriers qu'on mettait en avant sans arrêt, mais enfin très sérieusement, il y avait vraiment très très peu de contacts, et ça va d'ailleurs jouer un rôle, ou ne pas jouer de rôle d'ailleurs, c'est ça le problème pendant les événements de 68.
Et donc comme on l'a évoqué, c'est effectivement à la fois le fait de militer pour l'indépendance de l'Algérie et puis le fait de militer contre la guerre du Vietnam, pour la victoire du Vietnam en tout cas, qui a finalement amené mai 68, ce qu'on ignore pas mais qu'on oublie souvent.
Non, c'est vrai aussi bien sur le plan politique en termes de génération. D'abord, sur le plan politique, c'est vrai que 68 va exploser dans une situation mondiale où, disons, une bonne partie de la jeunesse est mobilisée contre la guerre du Vietnam, contre l'intervention américaine. Et je dois dire que juste avant 68, on avait participé à des manifestations européennes contre la guerre du Vietnam, en Belgique, en Allemagne, où on avait appris à défiler, appris à lancer certains mots d'ordre, etc. Donc ça avait été un peu une école, ce mouvement international contre la guerre du Vietnam. Donc ça va jouer un rôle. Le deuxième élément, en termes de politisation, le deuxième élément, ça va être ce qui se passait en milieu étudiant pour des raisons typiquement universitaires. Disons qu'en gros, pas seulement en France, mais il y a un milieu étudiant qui commençait à s'ouvrir aux couches moyennes, je dirais pas aux couches prolétariennes, et il y avait une structure universitaire qui restait complètement archaïque et qui collait plus du tout avec l'arrivée de ces nouvelles couches étudiantes. Donc mai 68 en France, sans parler de la grève ouvrière qui là n'existera qu'en France, mais le mai 68 dans la plupart des pays où ça a eu lieu, puisque ça n'a pas eu lieu qu'en France, il y a eu l'équivalent avec des mois de différence dans plusieurs pays, c'est la conjonction d'une radicalisation du milieu étudiant, radicalisation politique sur la guerre du Vietnam, et c'est aussi l'archaïsme du fonctionnement universitaire par rapport à l'arrivée de nouvelles couches étudiantes. Ça explique en grande partie 68. Bon, là-dessus va se greffer en France, plus tard un peu en Italie, mais un fantastique mouvement ouvrier, ça c'est l'exception française, donc une jonction un peu artificielle, mais ça on pourra en reparler, on s'en est aperçu plus tard, une jonction un peu artificielle entre le mouvement ouvrier et les étudiants, l'explosion ouvrière, elle va venir là aussi de deux facteurs. La répression contre les étudiants, qui va toucher le mouvement ouvrier, mais les ouvriers seront touchés parce que eux-mêmes en avaient ras-le-bol du gaullisme. Et on oublie toujours de dire que juste avant 68, le général de Gaulle avait pris un décret qui remettait plus ou moins en cause la sécurité sociale. Et en France, quand on touche à la sécurité sociale, on peut s'attendre à une explosion. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur du mouvement ouvrier. Plus la solidarité avec la répression contre la répression avec les étudiants victimes de la police, et ça va donner une grève générale ouvrière.
Alors vous êtes effectivement à la Crévine à la tête des jeunesses communistes révolutionnaires en 68. Est-ce que vous nous racontez un peu comment vous avez vu prendre ce mouvement à la suite de l'arrestation de Xavier Langlade et Nicolas Boult? Suite à une manifestation, justement, contre la guerre.
C'est ça. C'est-à-dire, très franchement, mais ça, c'est, je crois que c'est un enseignement pour l'avenir. Moi, les révolutions ou les mouvements de ce type, même si c'était pas une révolution, j'avais lu ça dans les livres, mais j'ai jamais vécu. Donc, c'est une expérience tout à fait nouvelle. Et là, on voit qu'il y a des prétextes qui mettent le feu à la plaine, mais parce qu'il y a des conditions générales qui expliquent pourquoi le feu peut prendre un moment et pas l'autre. Là, il y a eu une série de petits événements. Il y a eu d'abord des choses qu'on n'avait pas vues. Quelques mois avant 68, c'est une série de grèves ouvrières très radicales, à Caen, ailleurs, venant souvent d'ouvriers d'origine paysanne, peu structurés par les syndicats. Ensuite, il y a eu une manifestation étudiante pour la tentative d'assassinat contre le leader allemand révolutionnaire Rudi Dutschke, qui a très vite dégénéré au Quartier Latin sans qu'on y soit pour rien du tout. Spontanément, on a vu un milieu étudiant, plusieurs milliers d'étudiants s'attaquer aux flics et au Quartier Latin. Donc ces deux choses nous ont dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a un climat qui est en train de changer. Bien. Et alors après, bien sûr, va intervenir, disons, les gens les plus politisés vont jouer un rôle dans un mouvement énorme, spontané, dirigé par personne, mais où quand même les gens les plus politisés vont jouer un rôle au niveau de la prise de parole, au niveau des services d'ordre, au niveau de... Là, ça va jouer un rôle. Et on va retrouver, quand je parle des gens les plus politisés, notamment des anciens étudiants communistes, bon comme moi, qui avaient été formés justement dans les luttes pour le Vietnam et l'Algérie. Ça va être une bonne génération, une bonne fournée. Et puis des éléments provenant de milieux catholiques, etc. Donc le mai 68 va partir de façon spontanée, d'un certain point de vue, et je crois que c'est valable pour tous les mouvements de masse. Il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur un bouton, il n'y a que les flics pour avoir une analyse de ce type, stupide. Il y a donc un mouvement qui part, qui est spontané, et après il y a le rôle des organisations politiques, des militants politisés à l'intérieur. Alors comment moi je l'ai vécu? D'une façon exceptionnelle, parce que j'ai découvert plein de trucs. Bon, par exemple, je dormais quasiment plus chez moi parce que j'avais pas le temps de rentrer, donc j'avais une piole au Quartier Latin, dans tout ce qui se passait, que ça soit la nuit des barricades, que ça soit les assemblées générales, que ce soit les meetings quotidiens que l'AJCR, les jeunesses communistes révolutionnaires, faisait le soir, la sortie d'un quotidien qui était renéoté, parce qu'à l'époque on n'imprimait pas, mais on sortait une petite feuille quotidienne tous les soirs pour essayer de faire le point où on était, qu'on faisait, la participation quotidienne aux réunions, entre guillemets, de la direction du mouvement, mais ça voulait rien dire, c'était en fait Cohn-Bendit, Gesmar, Sauvageot, c'est-à-dire les dirigeants des syndicats, étudiants et enseignants, et les dirigeants de l'extrême-gauche de l'époque, et on avait, donc moi je représentais JCR, et on avait donc tous les soirs une réunion à l'UNEF, au siège de l'UNEF, rue Soufflot, en plein Quartier Latin, pour faire le point. Mais donc on apprend, moi j'ai appris énormément de choses sur les limites et la force de la spontanéité, la démocratie directe qui parfois n'est pas toujours démocratique. Je vais pas ici fermer, mais c'est vraiment une leçon de choses, y compris comment les gens se politisent. Il y a une formule que j'avais lue, je crois qu'elle venait de Trotsky, c'est normal que je le cite, de son expérience de la révolution russe, où il avait cette formule: quand il y a un tel mouvement, les gens deviennent quotidiennement méconnaissables. Et ça, moi j'ai vu de près. Je veux dire, les gens avec qui on vit dans les quartiers qu'on connaît pas, le matin ils amènent les gosses à l'école, ils vont bosser, ils reviennent le soir, il fait noir, on les voit pas, on se parle pas dans les HLM, c'est ça. Du jour au lendemain, avec la grève générale, les gens sont dans la rue, discutent, parlent, se transforment quotidiennement, un degré d'exigence qui augmente au niveau des combats qu'ils mènent, on a des ouvriers qui deviennent des poètes, des peintres, enfin bon, tous les slogans superbes de 68, ils viennent pas de ces gars-là de l'époque, mais ils viennent spontanément des gens. Je me rappelle comment nous-mêmes, on a adopté « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». C'était dans les manifs, c'était pas ça le premier mot d'ordre. On avait lancé, je sais plus quoi, « Ce n'est qu'un début, le combat continue ». Puis ça collait pas, les manifestants le reprenaient pas. Puis finalement, c'est devenu « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». C'est venu complètement de la foule. Donc je veux dire, c'est des scènes absolument fantastiques auxquelles on assiste. Et bon, donc, je répète, c'est une véritable école à la fois qui montre les limites et la force d'un tel mouvement. Alors les limites, pour terminer là-dessus, en citer une, c'est justement y compris la volonté que le mouvement soit géré démocratiquement, et en même temps, au nom de cette démocratie, des fois on fait l'inverse. Et par exemple, tous les soirs à Paris, il y avait le rassemblement des étudiants autour de la statue Adam Ferrochereau. Bien, donc on était des milliers d'étudiants là, parfois 10 000, 15 000, 20 000 à 17 heures. Et puis le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on faisait dans la journée. Alors la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait pas de direction du mouvement. Et ça va jouer sur ces rassemblements. Parce que les réunions qu'on avait avec Cohn-Bendit, Jesmar, Sauvageot et compagnie, on discutait... on allait essayer de faire le lendemain, mais on n'a jamais discuté des grandes orientations, des perspectives, la révolution par la révolution, changer le gouvernement, jamais, jamais. C'était vraiment du terre à terre. Qu'est-ce qu'on allait essayer de faire? Et en plus, c'était jamais appliqué. Donc, on se retrouvait à Denfert Rochereau à plusieurs milliers, dizaines de milliers, et là-dedans, qui dirige? C'est ça, la fausse démocratie directe. Ben, c'est ceux qui ont le micro. Et le micro, c'était Cohn-Bendit, juché sur la statue, qui disait aux gens, et aujourd'hui, on va où? Alors, tout le monde gueulait, il y avait 50 propositions à la au machin, au bidule. Bon, celui qui dirige dans ce cas-là, il y en a deux qui dirigent. Il y a celui qui tient le micro, qui décide, et puis il y a surtout, ah ça c'était pas nous, c'était Cohn-Bendit, parce qu'il avait une grande gueule, il parlait bien et tout, et puis en bas de la statue, il y a ceux qui tiennent le service d'ordre et qui emmènent les manifestants. Là, en partie, c'était nous. Donc, je veux dire, ça monte, on apprend plein de choses, quoi, voilà, sur... Bon, moi, je sais que ça a été une école extraordinaire, enthousiasmante, crevante, on a été lessivés, mais tous les jours, et puis il fallait essayer de voir qu'est-ce qu'on fait pas, des problèmes tactiques, est-ce qu'on va à la réunion convoquée par Mendès France où il y avait Mitterrand, est-ce qu'on y va pas au stade Charletti, enfin, je passe, mais tous les jours il y a des problèmes à régler, mais qui touchaient essentiellement, faut le dire, le milieu étudiant. Après, la grève ouvrière, qui pour moi est l'essentiel, c'est autre chose.
Et si vous deviez garder deux ou trois images comme ça que vous pourriez décrire pour les auditeurs de ce mai-là, de ce mai 68?
Il y en a plein, mais j'en garderai deux. Bon, il y a la fameuse nuit des barricades, moi j'avais jamais vu ça. Mais je m'en suis aperçu qu'après, parce qu'après c'est après, mais avec beaucoup de temps de réflexion, qu'on est plus lucide sur le mouvement. Je sais que pendant le mouvement... Parce qu'on avait une éducation communiste, marxiste, disons. On savait pas où il allait, mais on savait où il allait pas. On était, nous, persuadés que c'était pas une révolution, parce qu'il n'y avait pas les éléments, parce que, je veux dire, les conditions étaient pas réunies. Mais on savait que c'était une révolte, qu'il fallait pousser au maximum, mais que ça serait pas une révolution. Bon, donc, les deux images, c'est l'image de la fameuse nuit des barricades, j'en avais jamais vu. Bon, ça s'est terminé, on s'est réfugié dans les locaux de l'école normale supérieure, parce que ça a été une répression assez dure. Et bon, ben, c'est les barricades, tout ça, mais même comment étaient faites les barricades? La moitié des barricades étaient devant des impasses. Donc même du point de vue stratégique, c'était complètement idiot. Mais là, c'était les deux côtés de 68. 68, c'est à la fois les références à toute une vieille histoire du mouvement ouvrier, la Commune de Paris, la Révolution française, les barricades, les mots d'ordre, on chantait l'Inter. Donc, il y avait à la fois le vieux mouvement ouvrier, que les étudiants essayaient de copier, et puis à la fois, ce qu'on appellerait aujourd'hui les premières apparitions des nouveaux mouvements sociaux, mouvement des femmes, mouvement des homos, mouvement antiracistes, et en 68, on trouve ces deux mouvements, et à la fois au niveau des mots d'ordre, au niveau des symboles, au niveau des chants, bien. La deuxième grande image, c'est à la fin de 68, quand pendant au moins deux jours, pas plus, le problème du pouvoir, c'est vraiment... posé, quand De Gaulle est parti, sans prévenir personne, il est parti en Allemagne, il n'y avait plus de gouvernement, plus rien, et il y a eu ce déferlement dans les rues, alors là, commun ouvrier étudiant, où le mot d'ordre central avait changé, et c'était le pouvoir aux travailleurs. Et c'est là où on s'est tous dit, oui, le pouvoir au travers, c'est bien joli, mais qui, comment? Et c'est là où on voyait toutes les carences de 68, et le fait que ça pouvait pas être une révolution, c'est qu'il y avait aucun pouvoir réel des travailleurs. Il y avait pas de comité ouvrier, il n'y avait pas de délégués nationaux ouvriers, pas d'assemblée nationale ouvrière des délégués de comité de grève. C'est-à-dire que le pouvoir au travers, c'était soit à leur direction syndicale, au PC, au PS, mais aucun d'entre eux n'en voulait, surtout par la rue. Et puis, il n'y avait pas un contre-pouvoir des grévistes organisés, structurés. Et c'est là où on s'est aperçu que c'était un mot d'ordre qui était très juste, mais qui reposait sur rien. Et toutes les carences de 68 sont apparues là, à savoir qu'il n'y avait pas un vrai pouvoir ouvrier organisé.
Oui, c'est peut-être aussi ce moment du 17 mai, avec cette tentative d'aller à Billancourt, retrouver les ouvriers, de joindre comme ça le mouvement ouvrier, qui ce jour-là se solde. Vous n'êtes pas très bien accueillis par les ouvriers. Et c'est un peu ça qui symbolise aussi cette jonction qui ne se fait pas.
Si on veut, ça, c'était au début, le 17 mai, je m'en rappelle, parce que sans me vanter, j'étais un des organisateurs de cette fameuse marche. Ouais. Il y avait l'assemblée à la Sorbonne devant des milliers d'étudiants régulières, elle aussi. On apprend qu'il y allait, donc la grève commence à Renault-Billancourt, on n'y était pour rien. C'est une grève de solidarité. Billancourt, faut le dire aux auditrices et aux auditeurs, aujourd'hui ça existe quasiment plus. À l'époque, c'était 20 000 ouvriers, une des plus grosses usines de France. Et comme on disait, Billancourt éternue, la France s'enrhume. Parce que c'était vraiment le bastion. Il y avait des milliers de militants communistes, je crois qu'ils étaient 2000-2005. Hein. Bon, c'était là où je m'étais fait shooter bien avant au cri du fascisme ne passera pas. Mais donc on apprend ça. Donc moi, avec d'autres, on fait stopper l'assemblée étudiante. Puis, bon, on a été élevés, éduqués dans le sens ouvrier-étudiant tous ensemble, blooms. Et on dit aux étudiants, on part à Renault-Billancourt. On est parti en manif, on a traversé tout Paris, on est arrivé à Billancourt. Effectivement, là, c'était les bureaucrates staliniens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens de dire ça. Mais à l'époque, ça existait vraiment. C'était les bureaucrates du PC qui tenaient Billancourt. On n'a pas du tout été accueillis par des acclamations. Tous les ouvriers étaient à l'intérieur de l'usine, sur les balcons, sur les toits. Ils nous regardaient vraiment comme des dangereux gauchistes qui venaient foutre la pagaille, et aucun ne se permettait d'applaudir. On a contourné Billancourt comme ça, devant des ouvriers qui nous regardaient. Ah bon, nous, on s'en doutait, grâce à un peu une éducation politique qu'on avait. On savait quelle était la politique du PC, qui voulait pas de nous, etc. Mais pour la masse des étudiants qui étaient là, ça a été une déception, mais totale, en disant, mais comment on est accueilli comme ça? Bien. Donc ça a été aussi une leçon de choses.
Alors peut-être est-ce qu'aussi on peut évoquer dans ce mai 68 un aspect qui est important, vous l'avez évoqué, c'est la question des slogans, la question de la presse, du journal, de l'écrit, qui est quelque chose qui est très fort aussi dans mai 68. Vous avez évoqué le journal que vous aviez mis en place, qui s'appelait Aujourd'hui, je crois, qui était pris en charge par Guy Hockenghem, qui est une figure aussi de cette période-là. Vous pouvez nous parler un peu de cette place de l'écrit, de ce journal, du rôle de la langue aussi dans mai 68.
Non, je crois que au niveau des médias, alors à l'époque, c'était pas encore la télé, c'était les tracts, les journaux. Il y a eu plein de journaux qui sont sortis, hein, pas que le nôtre. Donc c'était vraiment une petite feuille. Donc il y a eu plein de journaux et le rôle de la radio. C'était toutes les radios périphériques notamment. La télé, très peu. Hein. On regardait peu la télé, il y a peu de télé encore. Donc, les radios, c'était tout le monde avait son transistor à l'oreille pendant les manifs même. Les gens défilaient avec le transistor à l'oreille pour écouter ce que disaient les ministres, les machins, les bidules. Non, alors, ça jouait pas le même rôle qu'aujourd'hui, mais ça commençait déjà. La preuve, c'est qu'on a senti le besoin, même renéotypé, la période, mais de sortir un petit quotidien, quoi. Et on y tenait beaucoup. Hein. Donc, je crois que ça a joué un rôle. Bien sûr, les médias ont joué un rôle relativement important. Là aussi, c'est le début d'une nouvelle ère qu'on sentait, mais il faut dire la vérité, très mal, c'était très empirique. De notre part, on sentait qu'il fallait écrire et qu'il fallait tous les jours faire quelque chose et se faire lire ou écouter par des milliers, des dizaines de milliers de gens. Mais bon, malheureusement, au niveau des outils, c'était encore faiblouillard, hein, très faiblouillard.
Est-ce que mai 68, Alain Krivine, a été aussi un certain apprentissage de la violence du combat de rue entre les étudiants et les policiers?
Oui, mais la violence, là encore, ça a demandé une compréhension. Il y a eu ces fameuses bagarres au début, les barricades et tout, avec des centaines de blessés. Je dois dire aussi, ça peut être étonnant de ma part, que ça a été très violent, ça a heurté la population, mais ça aurait pu être plus violent. dans d'autres pays, c'est vrai. Hein. Il y a eu, je veux pas défendre les flics, je vais me faire attaquer par tout le monde.
Ça serait un comble.
Ça serait un comble. Mais bon, il y a eu quelques morts, mais je veux dire, dans d'autres pays, il aurait pu y avoir 20, 30 au Mexique, on se rappelle comment était la répression. Donc les flics ont fait gaffe. Alors je sais que le préfet de police, il s'en est flatté, il était au PS, mais bon, c'était pas pour les excuser, mais je veux dire, la répression aurait pu être pire. Hein. Bon, maintenant, il y a eu quand même quelques centaines de blessés. Alors la violence, oui, mais là encore, pas la violence minoritaire. Nous, on n'a jamais été des pacifistes, mais on dit toujours que la violence, il faut qu'elle soit comprise par les gens et qu'elle soit en riposte à la violence des autres. Mais on n'est pas des partisans de la violence, surtout pas. Et pour donner un exemple, il y avait quelques groupes libertaires, pas organisés, mais certains même organisés à moitié mafieux, comme les fameux Katangais à la Sorbonne, qu'on a virés, mais c'était des violences physiques avec eux, parce qu'ils dénaturaient complètement le mouvement. Mais je me rappelle surtout d'un truc, on s'est fait engueuler par certains, c'est qu'on a empêché plusieurs dizaines d'étudiants, plutôt libertaires ou anards, d'aller piquer une armurerie près de la gare de l'Est. Et bon, on avait un gros service d'ordre à l'époque, on a mis je sais plus combien, une centaine ou une cinquantaine de camarades pour protéger l'armurerie, avec l'idée que on pouvait pas, que si les armes partaient, des coups de feu pouvaient être tirés, et que le mouvement était pas à la hauteur de ça, que ça ne pouvait pas être compris, ça ne pouvait que foutre en l'air complètement le mouvement, et que c'était presque une violation de ce que voulait le mouvement à l'état où il était. Donc physiquement, c'était terrible. Les camarades du service d'ordre se sont battus pour empêcher que l'armurerie soit pillée. Donc, le problème de la violence, là aussi, on essaie de le maîtriser.
Alors, 68, ce sera aussi, à la fin du mouvement, la dissolution de nombreuses organisations, dont la vôtre, donc le Parti communiste international, et puis les JCR, les Jeunesses communistes révolutionnaires. Comment vous avez vécu ces dissolutions, d'autant plus que vous avez fini par faire un peu de prison à la fin de 68.
Oui, mais toute l'extrême gauche a été dissoute. Il y a eu une dizaine de partis, Mao, Trotskiste, machin, tout ça a été dissous. On s'y attendait un peu. Moi, je sais que la dissolution, on l'a appris dans l'appartement d'un comédien, parce qu'on avait des appartements pour pouvoir se réunir au cas où. On avait quand même prévu les trucs, l'infrastructure. Et là, c'était chez un comédien où on regarde la télé, on apprend qu'on est dissous. Mais on s'en doutait un peu. Bon, et bon, alors après, il y a eu... on avait prévu, de se planquer, on voulait pas se faire arrêter tout de suite, ceux qui étaient les plus recherchés par les flics. Donc, on a été hébergés par une série de gens. Moi, je sais que je peux donner d'ailleurs, parce qu'il l'a jamais caché. Moi, j'étais à l'époque hébergé chez le couple Piccoli-Gréco. Qui m'ont accueilli de façon hyper sympa. Ben Saïd a été accueilli, je crois, il y a eu Delphine Seyrig. Enfin, il y a plein de comédiens, d'acteurs, d'intellectuels. Bon, c'est pas le fascisme, hein, parce que très franchement, en période fasciste, c'est pas là qu'on va se cacher chez des gens quand même connus pour leurs opinions de gauche. Mais bon, on savait les limites aussi de la répression, qu'elle serait pas, bon, elle serait très limitée. Et puis après. Bon, moi, je me suis fait arrêter bêtement. Enfin, bêtement, oui, j'avais rendez-vous avec ma femme que j'avais pas vue depuis pas mal de temps devant le lycée Condorcet. Parce que, bon, par téléphone, on avait compris que... Enfin, j'avais cru comprendre qu'il y a que nous qui pourrions comprendre que le rendez-vous clandestin pour l'avoir était devant le lycée Condorcet, parce que c'était mon lycée où j'ai fait toutes mes études depuis tout petit. Bon, mais manque de peau, quand je suis arrivé, il y a pas que moi qui étais arrêté, il y avait ma femme, mais il y avait un dirigeant de lutte ouvrière qui était aussi interdite, qui était là par hasard, et ma femme par hasard lui a dit, attends, Alain arrive. Il a attendu, je suis arrivé, et au moment où je suis arrivé, je me suis aperçu que les gens qui vendaient France Soir, les jours, il y avait des mendiants, il y avait des vendeurs de cacahuètes, tout ça c'était des flics en civil, et ils me sont tous tombés dessus, et on s'est tous fait arrêter et emmener au Fort de l'Est. Donc ça a été la première arrestation, Fort de l'Est, etc. Puis ensuite j'étais emmené à la santé, le copain de lutte ouvrière, ma femme a été relâchée tout de suite, le copain de lutte ouvrière a été relâché assez vite, je suis pas sûr qu'il savait qui c'était un des principaux dirigeants, et puis moi après ils m'ont foutu à la prison de la santé, donc c'était le premier séjour, encore une expérience intéressante de voir comment ça vit une prison. Puis je suis resté environ un mois, un truc comme ça, dans cette prison. Puis après, j'étais relâché, il m'a envoyé, j'étais sur Citerre, du coup il m'a envoyé à l'armée, à Verdun, normal, tout de suite.
Est-ce qu'on peut dire, Alain Krivine, que mai 68, c'est aussi un moment de transition, finalement, entre deux générations de militants, entre une ancienne façon de militer et une nouvelle façon de militer, de protester?
Oui, mais absolument. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un mouvement charnière, 68, entre, je dirais, une vieille classe ouvrière avec tout ce que ça a de tradition, de langage, de mots d'ordre, etc. Et le début de l'apparition de nouveaux mouvements sociaux, d'une nouvelle classe ouvrière, celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est embryonnaire. Et c'est ça la richesse fantastique de 68. Parce qu'à la fois, on a les grèves ouvrières classiques, occupation d'usines, là, c'est du classique. Puis en même temps, on a le théâtre de l'Odéon, qui est occupé on s'y attendait absolument pas, par les intellectuels, les artistes, les comédiens, les comédiennes les plus connus, et y compris même, on entend des conneries entre nous, hein, des comédiens très connus, mais j'ai entendu ça aussi de philosophes sur le thème, j'ai quasiment honte d'être comédien, j'ai honte d'être philosophe connu, je vais être comme, enfin bon, ça on a eu droit à tout, mais je veux dire, mais quand même, c'est une mobilisation fantastique du monde intellectuel, qui remettait en cause, en partie à juste titre, une partie un peu de leur fonctionnement, et ça je trouve que c'est déjà l'apparition de nouveaux types de revendications aujourd'hui, on dirait sociétal, c'est-à-dire c'est à la fois des revendications économiques classiques et des revendications de société. Alors on se trompe souvent, le mouvement des femmes, qui a été un mouvement fantastique, il n'est pas né en 68, il n'existait pas en 68 l'oppression des femmes, je vous assure que ça existait. Citez-moi une femme connue comme dirigeante de 68, il n'y en a pas une, hein. On ne peut pas trouver le nom. Mais oui, non mais exactement, et même dans le film de mon copain La Mourir à 30 ans, le rôle des femmes c'est effectivement, c'est de faire la cuisine, et bon. Mais alors par contre, il y avait les germes déjà, parce que les femmes ont joué un rôle énorme, elles étaient sur les barricades, mais pas avec aucune représentation. Et le mouvement des femmes, le fameux mouvement de libération des femmes, va naître après 68. C'est pareil sur l'environnement, c'est pareil sur le mouvement homosexuel, etc. Mais je pense que les racines sont dans 68.
Pour conclure brièvement, vous dites souvent, quand on vous lit, que vous n'avez pas de nostalgie pour mai 68, mais que vous n'êtes pas non plus pour la casse de mai 68.
Non, moi j'ai pas de nostalgie, je regrette absolument pas, c'est même pas un problème de fierté, j'ai appris énormément, mais comme moi je regarde jamais dans le passé, j'aime pas les vieux qui vivent par leur passé en emmerdant tout le monde, en racontant leurs souvenirs à leurs enfants, leurs petits-enfants qui n'ont rien à cirer, donc c'est pas en termes de nostalgie, c'est en termes d'une expérience. Moi j'ai toujours, avec cette idée, maintenant faut préparer un 68 qui réussisse. Moi, c'est en ce sens que j'utilise 68, parce que j'ai rien lâché, hein, au contraire.
Merci Alain Krivine. À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, chargé de réalisation Dominique Costa. Vous pouvez comme toujours réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, quatrième volet de notre série d'entretiens, Y a-t-il une famille trotskiste ?